Du 24 au 29 mars, le troisième numéro zéro du pays de Fort-Calquier.
Des projections, des rencontres, de la création radiophonique et beaucoup d'ambiance dans le cadre de ce festival très particulier qui va se dérouler à Fort-Calquier. C'est la troisième édition, effectivement, de numéro zéro. Généralement, un numéro zéro, il n'y a pas de suite, ou alors c'est un numéro un. Mais bon, là, on est à Fort-Calquier, donc les choses sont un peu bousculées. 6 jours de projection et de rencontres pour ce festival qui va avoir lieu du 24 au 29 mars. Avec moi, plusieurs personnes pour en parler. Tout d'abord, Marion Coste. Bonjour Marion.
Bonjour François.
On va parler avec vous notamment de l'histoire de ce numéro zéro et puis de la miroiterie aussi, de l'association qui organise cette manifestation. Et puis je suis ravi d'accueillir aussi Batsheva Papillon. Bonjour Batsheva.
Bonjour.
C'est quelqu'un qui connaît bien la radio dans le sens général du terme et qui s'occupe notamment de création radiophonique. On va parler d'elle avec ça. On va parler de ça avec elle. Voilà, ça y est, j'arrive à tout mettre dans l'ordre. Marion Coste, la miroiterie, qu'est-ce que c'est, premièrement?
La miroiterie, c'est une association qui a été créée en 2007 par des amis, en fait, qui avaient envie de faire de la diffusion, de promouvoir l'image à travers la campagne, le pays de Fort-Calquier. Donc, un photographe, des réalisateurs, des gens qui faisaient de l'action culturelle, de l'anthropologie, qui avaient envie de proposer aux habitants du pays de Fort-Calquier des projections de films, plutôt du cinéma documentaire, des choses qu'on ne voyait pas à la télévision, au cinéma, mais qu'on pouvait trouver dans de nombreux festivals en France et à l'étranger, avec une grande dynamique de production. Et donc l'envie, c'était de pouvoir montrer ces images chez nous, dans des endroits un peu insolites, des bistrots, dans des villages.
Le nom même de miroiterie, ça veut dire que c'est un reflet de la société?
Ça peut être ça, un regard sur le monde.
Donc depuis 3 ans, vous organisez cette manifestation particulière, le numéro zéro. Pourquoi avoir conservé ce numéro zéro?
Évidemment, donc on a fait cette première édition un peu rapidement parce qu'il y avait une opportunité, une grande envie de le faire. Je précise tout de suite qu'on organise numéro zéro avec le cinéma Le Bourguet. C'est très important parce que c'est là
qui est
le cinéma de Fort-Calquier. Et l'arrivée de son nouveau directeur, donc il y a bientôt 4 ans, a été aussi à l'origine de cette envie de faire ensemble des choses. Et donc on a monté ce festival un petit peu vite. On s'est dit tiens, comment on va l'appeler? On ne sait pas. On s'est dit tiens, c'est le numéro zéro, voilà. C'est plus simple, il faut qu'on ait un titre là, il faut que les programmes partent à l'impression demain, donc c'est numéro zéro. Et puis l'année suivante, on a continué, on s'est remis au boulot, le festival a bien fonctionné, on était contents. Et toute l'année s'est déroulée, on est arrivé un mois avant l'impression du programme et on n'avait toujours pas de titre. Et on s'est dit, mais finalement, numéro zéro, ça nous va très bien. Ça laisse l'ouverture de faire des choses, ce qu'on veut en fait, ça nous laisse beaucoup de liberté. L'idée de pouvoir recommencer, renouveler, ça nous convenait bien.
De la liberté et de la malice, donc comme dans la miroiterie, on l'a bien compris. Pendant 6 jours, donc des projections, des rencontres, et en même temps, vous allez irriguer un petit peu le pays de Fort-Calquier, vous allez aller en plusieurs endroits, et pas uniquement au cinéma Le Bourguet.
Oui, on a envie de rester itinérant. C'est vrai que maintenant qu'il y a le cinéma Le Bourguet, c'est facile et confortable de travailler et d'avoir des belles projections dans une grande salle de cinéma, mais on tient à rester itinérant, et donc chaque année, on choisit 2 villages du territoire du pays de Fort-Calquier, donc qui regroupe 2 communautés de communes. Et cette année, on va à Montlot, qui est une commune de 150 habitants, et à Saint-Michel Observatoire. Et on passe une journée complète dans chacun des villages, avec des propositions variées, donc des projections de films, des balades, des ciné-concerts. On travaille aussi à Saint-Michel avec les scolaires, donc on propose des projections scolaires. On fait en amont un travail à l'école en atelier, justement, un atelier de création radiophonique. Voilà, on essaye d'être présent un peu plus que le temps du festival pour pouvoir vraiment créer des rencontres avec les habitants.
Alors ça y est, les mots sont lâchés. Création radiophonique. Batsheva Papillon, qu'est-ce que c'est que la création radiophonique?
La création radiophonique... C'est du son, c'est fait pour la radio, historiquement. On a conservé ce terme de radiophonique, même si aujourd'hui c'est des choses qui passent pas forcément à la radio, parce que maintenant il y a Internet, il y a une multiplication des séances d'écoute, donc des gens qui viennent écouter des choses ensemble dans des lieux comme par exemple à Numéro Zéro. Mais l'idée de la radio, c'est l'idée de la transmission. On s'adresse à quelqu'un. Je crois que c'est pour ça que c'est resté radiophonique, en fait, même si ça prend aujourd'hui des formes qui ne sont pas liées à des radios FM en tout cas. On l'oppose parfois à la création sonore. Alors quand on se demande c'est quoi la différence entre création radiophonique et création sonore, on peut dire, mais bon, c'est très schématique, que dans la création radiophonique, on reste sur des formes un peu plus narratives, on est moins du côté de la musique, on va raconter des histoires, en fait.
C'est-à-dire qu'un travail comme ce qu'on fait actuellement, un journal radiophonique, c'est pas de la création radiophonique, ou ça en est ?
Dans la création, il y a la liberté. Ici, on est dans une forme plus organisée. On doit dire des choses. On peut pas.
Le temps est contraint aussi.
Où. Le temps est contraint. Il peut l'être aussi dans la création radiophonique. Bon, voilà, c'est des cadres, mais dans lesquels on peut s'inscrire ou ne pas s'inscrire. C'est pas très grave, en fait. Le nom qu'on lui donne, ce qui compte, c'est que les gens aujourd'hui s'amusent avec le son, et de plus en plus, il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à ça.
Et ça s'est démocratisé, effectivement. Ouais. Les appareils sont devenus maintenant beaucoup plus grand public, et c'est une bonne chose. Il y a aussi un atelier particulier, moi, dans votre programme qui m'a attiré, c'est la radio Cousumain. Expliquez-nous.
Alors, la radio Cousumain, c'est proposé par Chloé Sanchez et Célio Payard, qui se sont installés depuis quelques années à Rayanne. Et qui font partie d'un petit groupe de créateurs et de créatrices qui ont créé la radio Cousumain. C'était à l'époque sur Radio Campus Paris. Et c'est des gens qui faisaient de la création sonore, de la création radiophonique, et qui à un moment donné se sont dit, en fait, on en a marre de passer notre vie avec notre ordinateur. Parce qu'aujourd'hui, quand on fait ça concrètement, on fait des prises de son et puis on passe énormément de temps sur un ordinateur à faire du montage. Ensuite, il y a une diffusion et puis voilà. Et je crois qu'il y avait une frustration de l'expérience radiophonique collective et du côté très direct que peut avoir la radio. Donc, la radio Cousumain, c'est un micro mono pour tout le monde, un câble, une enceinte. On fait de la radio et il y a des gens qui écoutent, c'est la base. Et donc, pendant cet atelier, qui va avoir lieu deux fois donc, au cours du week-end, donc le samedi 28 mars et le dimanche 29 mars, les gens vont avoir deux fois deux heures pour préparer une performance de Radio Cousumain qui se déroulera le dimanche après-midi en public. Et donc, pendant ces deux fois deux heures, ils vont bosser beaucoup parce que, en fait, pour pouvoir produire quelque chose qui va être fait en direct autour d'un seul micro avec peut-être 20 ou 30 personnes, ça demande beaucoup de préparation. Ça veut dire qu'il faut qu'on sache ce qu'on va faire, à quel moment, qui va parler, qui va faire quoi, qui va chanter, qui va faire des bruitages. Et tout ça, ça va être écrit comme une partition, en fait. Même si ça laisse beaucoup de place à l'improvisation, et même si quand on fait une radio Cousumain en deux fois deux heures, c'est forcément un peu risqué.
Les thèmes sont libres éventuellement ?
Alors ça va être décidé par le groupe, avec Chloé et Célio. Oui, je pense que la liberté est totale.
Alors c'est vrai que l'approche, elle, ça ressemble beaucoup à plus une répétition de théâtre et une présentation ou une répétition de musique. Et en même temps, c'est radiophonique et c'est avec des personnes, je suppose, qui n'ont jamais ou rarement parlé devant un micro.
C'est ouvert à tout le monde, donc il y aura probablement des gens qui ont déjà une expérience de radio, mais n'importe qui peut venir. On n'a besoin d'aucune compétence technique, on a juste besoin d'avoir envie de s'amuser avec un groupe et de faire des sons, ou de parler, ou de chanter.
Et aussi de produire quelque chose, donc effectivement ça peut être un...
Et de produire quelque chose en public mais en étant porté par le groupe. Donc c'est pas comme s'il fallait venir devant un micro et faire un discours. Ou...
C'est pas un karaoké.
C'est
mettons
pas un
les
karaoké,
choses au clair.
Pas du tout.
Voilà, c'est autre
non.
chose. C'est tout à fait différent. Alors Marion, sur ce programme, il y a aussi beaucoup de cinéma. Et il n'y a pas que de la radio. Hein.
Bien sûr. On mélange vraiment le cinéma et la création sonore. On est vraiment sur les deux entités.
Quels sont les temps forts qu'on pourrait noter, par exemple ?
C'est difficile de déterminer un temps fort parce que on construit ces rencontres vraiment sur des coups de cœur. Tout ce qu'on choisit, c'est vraiment des choses qu'on a aimées. Mais peut-être qu'on peut vous parler du premier film qu'on a choisi de programmer. Il s'appelle Diario di un Maestro. ça veut dire journal d'un maître d'école. C'est un film réalisé par Vittorio De Setta dans les années 70.
Il faut bien le dire, Vittorio De Setta.
Vittorio De Setta.
À ne pas confondre avec Vittorio De Sica,
tout
qui
est
un autre grand
réalisateur italien de la même période. Et donc, Vittorio De Setta avait eu une commande de la RAI TV à l'époque pour faire un film. Et il a choisi de faire un film sur les expériences d'école nouvelle, qui était assez florissante en Italie. Et il a produit un film de, enfin, 4 épisodes d'une heure, en fait, d'un film qui raconte donc l'histoire d'une classe d'élèves dans une banlieue de Rome assez pauvre avec des cancres. L'instituteur arrive dans une école, on lui donne la classe de cancres dont personne ne veut plus. Et lui, il fait le choix de leur apprendre les choses de façon différente. Ils sortent dehors, ils vont observer des animaux, ils en ramènent dans la classe, ils vont interroger leurs grands-parents, comment c'était la guerre, ils vont voir un immeuble qui est en train d'être démoli, et à partir de ça, ils vont apprendre des choses. Et pour faire ce film, en fait, il a réellement été chercher des gamins qui étaient plutôt déscolarisés, enfin, qui étaient en échec scolaire. Ils ont installé une salle de classe et ils ont vraiment fait l'école pendant 4 mois, en fait. Le tournage a duré 4 mois, je crois que c'était 2-3 heures par jour. Et ils ont vraiment expérimenté, en même temps qu'ils expérimentaient cette pédagogie nouvelle, ils expérimentaient aussi une façon de faire le film. Et ça a vraiment été un travail collectif. Et ça se ressent énormément, c'est vraiment... Enfin, moi, quand j'ai vu ce film, j'ai trouvé ça vraiment jubilatoire, ce qui se passait à l'écran et les idées qui étaient transmises. Et donc, ce film a été passé à la RAI TV dans les années 70, ça a eu une grande, grande influence. Il y a eu beaucoup, beaucoup de téléspectateurs, je crois plusieurs millions. Enfin, il a vraiment fonctionné et ça a vraiment entraîné des réflexions par la suite en Italie, à cette époque-là, sur l'école nouvelle.
C'est un film qui sera projeté le 26 mars à 18h au cinéma Le Bourget à Forcalquier, bien sûr. Et puis d'autres temps forts éventuellement, toujours sur grand écran.
Toujours sur grand écran. On a par exemple un ciné-concert à Saint-Michel Observatoire, donc le vendredi 27 mars à 18h. Ouais. On avait fait ça l'année dernière à Ongles et on a adoré cette expérience. Donc 2 courts-métrages de Buster Keaton. Et un musicien qui habite le pays de Forcalquier, Samuel Perronnet, qui accompagne, qui a vraiment fait une création pour l'occasion. Voilà, donc ça, c'est vraiment des moments aussi qu'on a envie de privilégier, des moments en famille, où on peut vraiment venir avec tous ses enfants pour profiter aussi de ce numéro zéro. Batsheva, est-ce que tu as une idée sur un temps fort qui te parle?
Eh ben, je peux vous parler de la promenade qu'on propose le mercredi 25 à Montlot à 17h30.
En hauteur, donc.
On va aller vers le vieux Montlot. Donc, on se retrouve à la salle Culture et Loisirs à 17h30 et on part tous ensemble. Et on part écouter et observer le paysage avec une chef opératrice de cinéma documentaire, Olga Widmer, et une créatrice sonore, Chloé Sanchez, la même de la radio Cousuma. Et donc, on va être dans ce paysage comme si on était en train de faire des repérages pour un film. C'est-à-dire, on va essayer de repérer les cadres possibles et on va essayer d'écouter qu'est-ce qui se passe. Voilà, en étant guidé par Chloé et Olga, qui ne vont pas nous parler tout le temps, qui vont quand même nous laisser... profiter.
Et vous imprégner de ce lieu magique qui est le vieux Montlot, ce village en ruine au-dessus de Montlot et qui va forcément inspirer des réactions.
Je pense.
Il y a des chances, oui, tout à fait. Et il y a aussi un très beau film en clôture de votre festival, me semble-t-il.
Oui, Zumeriki, c'est un film d'Oscar Alegria. Ça sera une avant-première en France. Il va arriver de Bilbao le dimanche, juste avant la projection, pour nous présenter son film. C'est un film presque expérimental, je dirais. C'est vraiment une histoire très personnelle, une expérience qu'il a voulu vivre pour retrouver un peu des souvenirs d'enfance et passer du temps au bord de la rivière, là où il allait en vacances enfant. Il installe tout un dispositif, en fait, et il se filme à travers ce dispositif à la recherche de ses souvenirs, à la recherche des sensations. Il interroge aussi les paysans qui sont dans les environs. Voilà, c'est un film qui est très dans la sensibilité, avec une dimension aussi très plastique. Voilà, c'est vraiment une œuvre. Ce que j'aime bien parfois dans le cinéma documentaire, c'est qu'on est vraiment dans des œuvres avec une construction qui n'appartient qu'à ce film-là. On n'est pas dans des choses qu'on connaît déjà. On va vraiment aussi expérimenter un regard, une forme. Et j'invite vraiment les spectateurs à prendre le parti de se laisser aller dans les propositions, de les accepter, même si parfois elles sont déroutantes. Mais il y a toujours quelque chose qu'on va traverser. Et à la fin du film, en général, on a rencontré quelque chose. Voilà.
Il y a un moment particulier aussi dans votre festival. C'est un moment qui est dédié à Jacques Tati, mais pas vraiment à l'image de Jacques Tati, plutôt au son, que ce soit la musique ou les dialogues ou les onomatopées. Tati savait faire ça aussi. Donc, qu'est-ce qui va se passer très exactement là?
En fait, c'est vraiment l'exemple type, on va dire, de ce qu'on a envie aussi d'amener avec Numéro Zéro, c'est la rencontre entre l'image et le son. Donc on essaye toujours de trouver des petits moments comme ça dans le numéro zéro où on va vraiment regarder ça de plus près. Là, on a invité Daniel Dehé pour la deuxième fois parce qu'il était venu l'année dernière. C'est un ingénieur du son qui parle très très bien du son au cinéma. Donc qui a tout un corpus de films comme ça dont il peut parler en mettant vraiment l'accent sur le son. Il se trouve que chez Tati, il y a vraiment des moments où c'est le son qui est au départ de la construction de l'image et du film. Et donc, il va prendre plusieurs séquences de films de Tati et il va nous les décortiquer en nous montrant comment le son, en fait, guide l'image plutôt que l'inverse.
Donc, il va parler de Tati les yeux fermés. C'est intéressant, ça. Ouais. C'est intéressant parce qu'il n'y a pas que l'image chez Tati, effectivement, et c'est une manière de lui rendre hommage aussi, cette lecture très, très particulière. Que dire aussi, ben, il y a aussi les émissions de nos amis de Radio Zinzine qui vont participer à la fête, Batcheva.
Alors, Radio Zinzine accueille pendant 3 fois 1 heure le collectif Copy Carbone, qui est un collectif de créateurs sonores et de documentaristes marseillais qu'on a invités, à qui on a donné une carte blanche. Donc, ils vont faire absolument ce qu'ils veulent. Donc, ils sont accueillis dans le studio mobile de Zinzine et avec une retransmission en direct. Donc de 16 à 17 heures, ça va être le jeudi, le samedi et le dimanche. Et donc Copy Carbone, ils vont arriver en début de semaine à Fort-Calquier, ils sont pas d'ici. Ils vont faire des enregistrements liés au festival ou pas, ils ont la liberté absolue. Et ils vont nous faire écouter voilà, ce qu'ils auront entendu. Et ils auront aussi des invités. Donc c'est la radio du festival, mais une radio totalement libre.
Oui, ça, je trouve que l'idée est excellente, elle est bien, et puis ça permet effectivement de faire rayonner le festival après sur les ondes et d'avoir un rendu particulier quasiment historique, puisque vous allez garder évidemment toutes ces bandes de son. Un coup de cœur peut-être, Marion Coste, sur ce festival?
Peut-être qu'on peut vous parler de Kabir Yachomel.
Mais rapidement, s'il te plaît, s'il vous plaît.
Alors, Kabir Yachomel est une artiste et une réalisatrice sonore qui est venue en résidence. Elle vient de passer un mois à Ongles, à la maison Picasio, et elle est partie enregistrer à la rencontre des habitants du territoire. Elle avait une question: qu'est-ce qu'il y a derrière les collines? Et elle a rencontré 10-15 personnes. Et elle va nous faire une proposition. Elle est en train de finir le montage de cette réalisation sonore qu'elle présentera en ouverture du festival, donc mardi 24 mars à 18h à Fort-Calquier, à la salle Pierre-Michel. Voilà, donc on est curieux.
C'est une démarche sociologique et radiophonique.
C'est vraiment de la création, je pense. Alors, création. C'est vrai qu'il peut y avoir un petit côté sociologique parce qu'elle est allée voir des gens et elle leur pose des questions, mais après, elle le met à sa sauce. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on est dans quelque chose, dans une forme nouvelle.
Batcheva, un coup de cœur?
Un coup de cœur, oui.
Oh là là, 18 au moins.
Moi, j'aime beaucoup Joli Maton, un documentaire sonore qu'on va présenter le dimanche 29 mars au cinéma. On propose des séances d'écoute au cinéma, donc on vient comme si on venait voir un film, on s'installe, on ferme les yeux et on écoute tous ensemble. C'est une expérience vraiment que je recommande aux gens qui ne l'auraient jamais faite, parce que c'est vraiment une façon d'écouter la radio qui est très agréable et qui permet vraiment de voyager. Et Joli Maton, c'est un documentaire de Karim Aït Ghassem, qui vit en Belgique et qui, à l'occasion d'un atelier radio avec des prisonniers, a proposé d'inventer une fiction. Et donc, à travers la fabrication de cette fiction avec les prisonniers, on découvre en fait leur vie, leur pensée à eux. Et finalement, c'est un documentaire.
Bref, vous l'avez compris, c'est un festival où il faut absolument aller. C'est du 24 au 29 mars à Fort-Calquier. Il y a un site internet pour tout renseignement, festivalnumero0.com, un numéro de téléphone. Peut-être qu'il vaut mieux réserver pour certaines soirées, c'est pas impossible. 06 38 47 58 65. 06 38 47 58 65. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, mesdames. Merci Marion Coste, merci Batsheva Papillon.
Merci,
et puis
merci,
bon festival
François.
À vous, à Fort-Calquier, et puis à Montlot et à Saint-Michel, l'Observatoire. À bientôt.